Voilà, alors on va commencer par une première question. Je ne sais pas qui a osé me poser ça, mais ça me rappelle, elle m'a été posée le jour où je soutenais mon mémoire de maîtrise de théologie. Donc voilà. Question sur le salut. Après, en dehors de l'Église, point de salut, tout homme est appelé. Point d'exclamation. On nous change la religion, mon père. Alors. Bon, c'est vrai qu'on m'a dit, ça, hors de l'Église, point de salut, et que j'y crois profondément. Mais si vous avez de temps en temps eu des échos de ce que j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, c'est susceptible d'une interprétation facile. Si l'Église n'existe pas, il n'y a pas de salut. Et le salut, c'est bien d'une certaine façon d'être associé à l'Église. Alors, par les moyens que Dieu connaît, mais d'être associé à l'Église. Et autrement dit, ça veut bien dire que tout homme est appelé. Mais pour que le salut soit manifesté, il faut bien que l'Église existe. Alors encore une fois, si pour vous l'Église, c'est le synode des évêques, si pour vous l'Église, je sais pas quoi, moi, le conseil pastoral de la paroisse, évidemment, ça marche pas. Si l'Église est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois ce peuple appelé qui ne connaît pas de frontières, s'il est à la fois le corps du Christ, s'il est à la fois ce temple spirituel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite, de frontière, alors il faut que l'Église existe pour manifester le salut et d'une certaine façon pour l'accomplir, par les prières, par les sacrements, etc. Mais ça n'est pas contradictoire avec tout homme est appelé. S'il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de salut manifesté. Mais en même temps, tout homme est appelé au salut et la tâche de l'Église, c'est d'accomplir ce salut. Demain, on va célébrer l'Eucharistie. Est-ce que nous croyons, quand nous sommes présents à l'Eucharistie, que le monde est sauvé? Parce que nous faisons là, le monde, hein, tout le monde, que l'Eucharistie, si elle est bien le sommet de tous les sacrements, eh bien le lieu où le salut est donné et mystérieusement accompli. Alors, évidemment, accompli en espérance et en tension vers la fin des temps. Donc, c'est un statut fragile, soumis au combat avec les ténèbres, etc. Mais là, hic et nunc, quelque chose du salut est manifesté et accompli. Et là, si on ne le fait pas, s'il n'y a personne pour se rassembler pour l'Eucharistie, que se passe-t-il? Moi, j'étais très frappé quand les églises de Nouvelle-Calédonie, je sais pas si mon évêque à l'époque y était, donc j'ai dû le préparer, mais ont fêté le 150e anniversaire de leur évangélisation. Ils sont tous rassemblés auprès d'un arbre, l'arbre sous lequel les premiers missionnaires avaient célébré la messe. Alors imaginez ces bons pères maristes vers 1830, qui descendaient de leur bateau, ils avaient vu encore personne, qui montaient un autel de fortune et ils disaient la messe. Pour dire quelle idée, ils avaient qu'à le faire entre eux sur le bateau. Parce que dans leur esprit, l'Eucharistie qu'ils célébraient récapitulait la totalité de l'histoire de ce pays. Autrement dit, dans cette Eucharistie-là, c'est pas seulement le pain et le vin qui consacraient, c'est ce qui allait devenir la Nouvelle-Calédonie. Et quand nous sommes à la messe, c'est pas simplement le pain et le vin que nous consacrons, c'est le cosmos tout entier qui est appelé à être incorporé au Christ. Et nous aussi. Alors peut-être qu'on n'a pas assez de foi pour le voir, etc. Mais c'est ça. Donc, à mon avis, en dehors de l'Église, point de salut, si on l'entend comme ça, n'est pas du tout opposable à tout homme est appelé. Bien sûr, si vous entendez hors de l'Église, point de salut, comme la fameuse histoire qu'on raconte, vous connaissez toujours, vous connaissez sûrement depuis longtemps, pardonnez-moi de la rappeler, mais vous savez, du brave homme qui meurt et qui arrive au paradis, il ne savait pas que ça existait. Alors on l'amène au paradis et puis on le fait visiter. Saint-Pierre, il y a du temps ce jour-là. Alors c'est fabuleux, il y a des anges qui jouent de la harpe, c'est sympa, les gens sont vraiment très bien entre eux, tout va bien quoi. Et puis à un moment, il y a un mur. Alors le gars s'arrête et il dit, mais c'est quoi ce mur? Saint-Pierre est un peu embêté, il dit, non, c'est rien, ça Le mur continue. Alors le gars lui dit, mais enfin ce mur. Saint-Pierre dit, oh, ben, ce mur c'est pour les catholiques qui sont de l'autre côté, comme ça ils croient qu'ils sont les seuls à être sauvés. Mais alors, effectivement, si vous entendez hors de l'Église, point de salut comme ça, bon, mais je crois que vraiment derrière, être dans l'Église, c'est vraiment vouloir procurer le salut des hommes et le procurer à la fois par l'annonce de la foi. Si on n'annonce pas l'Évangile, comment ils sauront qu'ils sont aimés par Dieu? Par l'annonce de l'Évangile, par le service du frère. Et le service du frère, c'est pas simplement être sympa ou philanthrope. C'est un acte liturgique. Vous avez un des grands mystiques, à mon avis, du XXe siècle, qui s'appelait Vladimir Gicka. Et là, Vilika a écrit dans les années 20 un livre qui s'appelle « Le sacrement du pauvre » et dans lequel il dit, alors en commentant une hymne de la liturgie grec-orthodoxe, parce qu'il était de rite, était roumain, était de rite grec-orthodoxe, il dit, ben voilà, quand je rencontre le pauvre rencontre le Christ et qui vient à son aide en ma personne, donc la présence réelle du Christ qui vient l'aider, et moi je rencontre le Christ pauvre et abandonné que je sers, et dont le Christ donnant et donné, dans le Christ recevant et reçu, s'accomplit le mystère même de l'Eucharistie. Alors, là, il cite en fait l'hymne avant la communion du rite gréco-catholique. Voilà. Le service du frère, c'est pas simplement le monde va mal, il faut qu'on améliore les conditions sociales. Bien sûr, ça joue, on est citoyen, mais c'est d'abord là la certitude que dans le service du frère, c'est un service liturgique du Christ lui-même. Si vous lisez la règle de Saint Benoît, vous arrivez, alors, pardonnez-moi, j'ai oublié le numéro, mais vous avez vers la fin, là, de la réception des hôtes. Là, évidemment, la règle de Saint Benoît est écrite en latin. Donc, hôte, c'est hospes, qui signifie à la fois celui qu'on reçoit et d'une certaine façon l'étranger qui passe. Bon, mais, et Saint Benoît écrit, quand l'hôte sera reçu, après s'être profondément incliné devant lui ou s'être prosterné devant lui, où il lavera les mains, etc. Et il dit, le Christ ayant été ainsi adoré en sa personne. Alors la prosternation profonde ou la prostration, c'est le signe de respect des espèces eucharistiques. Donc l'hôte qui passe, l'étranger, espèce et l'étranger, l'hôte qui passe, c'est la présence du Christ. Et quand je le reçois, non seulement, bien sûr, je lui permets de manger, de dormir, etc., mais je rends un culte au Christ. Et mon Eucharistie n'est valide que si elle n'est pas séparée de ce service du frère. Qu'est-ce que ça signifie? Rappelez la notice des actes qu'on nous a lue tout à l'heure au début. Qu'est-ce que ça signifie de se retrouver ensemble pour partager le pain s'il n'y a pas la koinonia, s'il n'y a pas la communauté des biens, si l'autre est resté avec soi? Vous savez que, Régis me pardonnera, il a fait un très beau commentaire, mais que dans les actes des apôtres, il y a trois sommaires, c'est quand même une présentation idéale, parce que généralement, c'est toujours suivi d'une grosse sale affaire. Et celui qu'on a lu, c'est Ananie et Saphir qui suivent, c'est-à-dire monsieur et madame qui commencent par tromper tout le monde. Enfin bon, voilà, c'est un valeur. Donc même à Jérusalem, ce n'était pas si parfait que ça. Mais c'est l'idéal de l'Église. Donc il y a vraiment un lien absolu du service du frère et de la célébration de l'Eucharistie. Vous savez, c'est exactement comme quand Paul nous parle des règles de morale sexuelle. Il y a un gros problème qui se pose à Corinthe. À Corinthe, il y a des cultes, ou des dames, des messieurs aussi d'ailleurs, contre-paiement vous permettent de vous unir à la divinité. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est une présentation du culte qui est plus dynamique que celle que proposent d'autres choses. Et donc, c'est un peu tentant. Et le chrétien moyen, enfin converti, puisque les dieux sont des riens, donc c'est pas grave, qu'on peut y aller. Et Paul ne dit pas « c'est pas bien ». Il ne dit pas « c'est interdit, c'est dégueulasse ». Il dit « vous êtes les membres du corps du Christ. Peux-tu unir le corps du Christ à la prostituée ?» Je trouve ça très intéressant, sachant que la prostitution est toujours le symbole de la... symbole plus que le symbole, d'ailleurs, dans ce cas-là, mais le symbole de l'idolâtrie. Hein. Mais voilà, c'est toujours cette idée du corps du Christ présent que nous formons et que nous rencontrons à travers l'autre. Et si Paul avait voulu être... Mais il l'a dit ailleurs. Si Paul avait voulu être cohérent, il aurait même dit qu'en fait, la prostituée, c'est le corps du Christ. Et l'utiliser comme prostituée, c'est prostituer le Christ. Il le dit ailleurs, il le dit quand il parle de l'Eucharistie dans un texte qui a souvent été mal compris, quand j'étais petit garçon, qu'on nous commentait pour nous dire qu'il fallait bien tout confesser. C'est au chapitre 11 des Corinthiens, il y a un problème à Corinthe, hein. Il n'y a pas encore de maison d'église, donc les gens se réunissent chez celui qui a la grande baraque, c'est-à-dire celui qui est riche, quoi. On a retrouvé ça dans des fouilles, les deux, trois maisons de rassemblement à Corinthe. Et donc, c'est comme une maison romaine avec son atrium et puis le triclinium, donc la salle à manger qui donne sur l'atrium. Et il n'y a que 13 places dans un triclinium normal. Et donc, le patron, qui reçoit tout le monde, comme un important reçoit sa clientèle à l'époque, il invite quelques copains avant. Normal, puisqu'ils s'entendent bien. Avant la messe, tu viendras croûter à la maison. Et voilà, ils sont là, dans la salle, ils mangent bien, il y a les moyens, il y a les danses, il y a tout ça. Et puis les autres arrivent, mais les autres, ils n'étaient pas invités au repas, ils étaient invités qu'à la messe, vous voyez, avec leur sac en plastique et leur sandwich pour après. Et puis bah, quand l'hôte de la maison sort avec ses copains, ils sont un peu allumés parce que le vin de graisse, il est quand même un peu fort. Voilà, légèrement bourré, et puis les autres, ils n'ont toujours pas mangé, ils sont là. Et Paul dit, est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger ? Car si tu fais ça, c'est-à-dire si tu fais ta fiesta pendant que les autres qui n'ont rien attendent là et sont dans la misère, eh bien tu ne reconnais pas le corps du Christ. Vous savez la fameuse phrase, celui qui mange et boit indignement le corps du Christ boit et mange sa propre condamnation. C'est ça que ça vise. Si je ne peux pas reconnaître le corps du Christ dans mon frère, comment puis-je prétendre le reconnaître dans les espèces eucharistiques ? Et ça, c'est vraiment complètement lié. Alors, évidemment, chacun d'entre nous, on voit, mais et donc c'est ça derrière, hors de l'Église. L'Église, c'est précisément l'humanité sauvée. On voit, hein, elle n'est pas bon. Mais l'Église, c'est l'humanité sauvée. Et donc, tout homme est appelé à y être. Simplement, j'ai dit, l'Église, moi, je n'en connais pas les frontières. Je connais les frontières de l'Église qui m'est confiée, et encore, j'en suis pas sûr, mais je ne peux, a priori, exclure personne de l'Église. Je peux exclure les gens de l'Assemblée eucharistique, je peux le faire. Mais pas de l'Église, parce que je ne sais pas. Dieu sait. Voilà. Bon, ça vous va, là ? Vous avez le droit de contester. Hein. Bon, ils sont gentils. Comment vivre la fraternité à la messe quand on ne se connaît pas les uns les autres ? J'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui nous permet d'avoir une vraie fraternité, parce que vous savez, c'est Emmanuel Lévinas. Et Emmanuel Lévinas a écrit une phrase que je trouve admirable. Il dit, le premier sentiment qu'inspire la fraternité, c'est le désir de meurtre. Tous ceux qui ont eu des frères et des sœurs le savent, non ? Enfin, je veux dire, pressentiment, désir de meurtre. Et la fraternité en Christ, précisément, elle va dépasser ça. Elle va dépasser ça parce qu'elle rejoint des gens qui, justement, ne sont pas des frères. Et qui prennent conscience qu'ils sont constitués frères par l'appel de Dieu sur l'autre. Moi qui suis un être aussi remarquable, il est donc normal que Dieu m'ait appelé. Il a aussi appelé tout un tas de pauvres mecs à côté, dont moi je pense quand même que vraiment ils perdent son temps. Eh ben non, parce que c'est mes frères. Voilà, c'est comme mon brave Justin qui m'appelle papa. Eh ben voilà, il va falloir que j'appelle frérot. Vous savez, moi j'ai le souvenir d'un gars qui est diacre dans la Drôme, et quand on prépare au diaconat, c'est un militant syndical agricole. Il travaille dans une coopérative agricole, et il y a eu dans les années, milieu des années 80, de très 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 fortes tensions sociales, et donc une grève. Et une grève qu'il avait impulsée et menée. Et un dimanche, il rentre dans le banc, il se rend compte qu'il était à côté du patron. Le directeur de la coopérative était à côté de lui. Et alors, bon, toute la messe, son drame, ça a été pourvu qu'il n'y ait pas de rite de paix. Voilà. En manque de bol, il y avait un rite de paix. Voilà. Bon, le curé adorait ça. Et donc, il saute sur sa femme, il embrasse, il salue les gens devant, derrière, et puis il y avait l'autre à côté. Et il y a une espèce de tension très forte. Et à un moment, il se dit non. Voilà. Il se retourne, il lui tend la main, l'autre la prend, et il lui dit, la paix du Christ, on continue la grève. Et l'autre lui dit, la paix du Christ, je ne change pas de point de vue. Et bien c'est ça la fraternité. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut serrer la main à quelqu'un à qui on devrait normalement casser la figure. Moi, je crois qu'il faut sortir de nos idéaux bisounours de fraternité. La fraternité, c'est très rugueux. Vous savez, si vous connaissez des religieux, parlez-leur de la vie communautaire. Moi, j'ai accompagné pendant des années des religieuses et des religieux. J'ai confessé, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je peux vous dire que le plus éprouvant, c'est la vie communautaire, c'est-à-dire celle où on a choisi d'avoir des frères et des sœurs. Parce que c'est très dur. Non, on ne se connaît pas, il n'est pas interdit de se connaître. Hein. On peut aussi se parler à la porte, quand même. Parce que là aussi, bon, il y a des gens, ils viennent à la messe, ils arrivent en retard, ils partent en avance. Alors, ils ont sûrement des raisons, mais ce n'est pas très propice pour rencontrer les gens. Quoi. Voilà. Puis, quel regard on nous vient d'une des premières confessions que j'ai entendues. Oh, j'étais très formé, très... Voilà, premier temps, l'accueil. Alors voilà, bonjour... J'étais dans un lieu de pèlerinage, vous êtes de quelle région de France, etc. Puis le gars, au moment, il dit, c'est que moi, je suis venu me confesser. Voilà. On n'est pas perdre son temps, genre de truc. Bon, voilà, mais il n'est pas interdit, il n'est pas interdit de se rencontrer. Moi, vous savez, je trouve terrible nos communautés chrétiennes, qui sont souvent païennes, et qui viennent pour le culte de la tribu. Il faut quand même bien aller au culte si on ne veut pas que la grêle détruise les vignes, quoi. On ne sait jamais. Puis on ne sait jamais ce qu'il y aura après. Il vaut mieux être en paix avec le barbu, mais ce qu'il a dit, on s'en fout. Enfin, je veux dire. Et vraiment, vous savez, il y a peut-être parmi vous qui l'ont vécu, des catéchumènes, qui vous racontent le parcours du combattant qu'ils ont dû faire pour être accueillis. Bon. Enfin, une communauté qui voit arriver un gars, une femme qui dit « je voudrais être chrétien avec vous », on devrait dire « youpi, sonner les cloches, pas quoi, faire péter le champagne », il n'y a pas du tout, on lui dit « ça prend 3 ans ». Bon, et alors, bon, voilà, très bien. Bon. Oui, mais vous savez, en fait, toute mon enfance, j'étais à l'école catholique, et puis, en fait, j'ai un doctorat en théologie. Oui, mais il faut 3 ans quand même. Bon, et puis, d'ailleurs, je voudrais aller voir l'autre paroisse, parce qu'ici, on n'est pas équipé. Bon, mais j'assure, vraiment, le sentiment, bon, moi, je me fâche, j'ai engueulé mes diocésains, je célèbre l'appel décisif, quelque part, entre Tamanrasset et le Sinaï, il n'y a personne. Il y a les familles des appelés de la nuit de Pâques, il y a les équipes d'accompagnement, il y a la paroisse, enfin la communauté locale qu'on prend en otage parce qu'ils n'ont pas de choix. Encore la moitié, ils sont partis parce que ça va être trop long. Et tout le reste de l'église est vide. C'est pareil pour les confirmations. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut dire à des adolescents quand la communauté n'est absolument pas là parce qu'il y a une confirmation? Oui, quand on est monseigneur, monsieur, que c'est long, oui, alors, on est à la messe samedi soir, oui. Oui, c'était une messe basse, vous voyez. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de nos communautés? Moi, je crois que nous avons le devoir d'interpeller nos communautés. Parce que nos communautés sont fraternelles, parfois plus qu'on le croit. Moi, j'ai été frappé parfois de voir comment, dans une communauté apparemment pas vraiment débordante d'affection, comment, en fait, on se prenait en charge les uns les autres. Mais dans d'autres cas, on ne sait pas. On a vraiment l'impression qu'en effet, il y a quelque chose. Mais en tous les cas, dans la foi, je crois que participer à l'Eucharistie me rend frère de ceux avec qui je suis, me compromet avec eux. Vous savez, je fais corps avec eux, hein, ce qu'on a dit. Par l'Eucharistie, je fais corps avec tous ceux qui sont là. Nous sommes le même corps. On le dit assez dans les prières eucharistiques, hein, que l'Esprit Saint fasse de nous un seul corps à la louange de ta gloire. Alors, on est un corps assemblé et je fais corps avec. Alors, ben voilà. Après, ben, je sais pas comment on fait, mais. Voilà, je vous invite à y réfléchir, mais et peut-être, si vous avez des engagements dans votre paroisse, de voir comment on peut rendre plus fraternel. Plus fraternel, ça ne veut pas dire forcément plus affectif. Hein. On n'est pas obligé de tous se cloquer la bise, mais comment on crée ce lien-là, quoi. Voilà. Ça se fait, enfin bon, j'ai peut-être de la chance. Mais les communautés que je fréquente un peu plus, moi je vois la cathédrale chez moi, c'est une cathédrale, donc vous voyez à peu près. Alors la population est plus diverse qu'il n'y paraît. Enfin, quand même, ce qu'on voit d'abord, c'est assez bleu marine, quoi. Il y a beaucoup d'enfants, bon, et puis il y a des jeunes, il y a des ados, là, ils sont très bien, des enfants de cœur impeccables, il y a que des garçons, bien. Mais il y a des filles qui sont anselmes de la liturgie, bon, très bien. Qui ne comprennent pas pourquoi l'évêque dit anselmes aimables à les Indiens. Enfin bon, voilà. Mais donc il y a tout un monde qui est là. Mais il y a aussi d'autres, il y a aussi beaucoup de pauvres, c'est au fond très coloré. Mais spontanément, on se dit, c'est quand même pas... Eh bien, en fait, si. Quand on parle avec eux, ils se connaissent plus qu'on imaginerait, se portent les uns les autres, se viennent en aide. Bon, mais parfois, il faut aussi savoir traverser les apparences. Bon, je pense à un garçon qui aurait largement sa place avec vous, d'ailleurs, mais c'est un problème, on lui a fait des propositions. Enfin, celle-là. Évidemment. Mais évidemment, il est toujours hyper sapé. Je ne suis pas sûr qu'il mange en ce moment. Il est intermittent du spectacle. Jules, ça va. Il m'a dit, ben, pas tellement, parce que je n'ai pas mon quota horaire sur l'année. Et là, actuellement, c'est dur, je n'ai plus rien. Quoi. Et il m'a dit, mais je ne veux pas que vous m'aidiez. Donc, on pourra régler. Mais je ne suis pas sûr que les autres s'en rendent compte, parce qu'il est toujours sapé, comme s'il sortait de la réception à Buckingham Palace. Donc, évidemment, on ne peut pas savoir. C'est aussi ça, l'autre aspect. Sous Louis XIV, ça s'appelait les pauvres honteux. Enfin, on a changé de mot. C'est quoi le futur langage de l'Église? Eh bien, si je savais, mon pauvre ami. J'en sais rien. Le langage de l'Église a toujours été multiple et divers. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il n'y a qu'un langage. Alors, il y a le langage des documents. le langage des documents. Et alors, le langage des documents, il est toujours un peu compliqué. Il nécessite certainement une exégèse, c'est clair. Et en même temps, comment faire? Là, actuellement, moi, j'ai un travail qui est pour la punition de mes nombreux péchés, mais je suis l'évêque qui suit, enfin, pas tout seul, il y a mon copain Gégé de Foix, mais nous sommes les évêques qui suivons la rédaction du nouveau statut d'enseignement catholique. Ça s'apparente à une course de vitesse dans un champ de mine. Bon. Et alors, on est en train d'écrire. Et donc, il fallait bien qu'il y en ait un qui se jette à l'eau, donc j'ai écrit les 20 premières lignes du statut, le préambule, les déclarations définitives. Ben, vous savez, j'ai beau faire des efforts pour le langage, quand j'écris ça à la fin, ça ressemble à n'importe quel texte romain. Voilà, ça fait beaucoup rigoler, on est dans un petit trio, puis il y en a qui disent c'est un discours d'évêque. Je dis, ben, j'aimerais vous y voir. Bon, et voilà, comment dire les choses. Mais ce n'est pas tellement les textes officiels, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on les présente, comment on les traduit, comment l'Église, mais l'Église c'est vous aussi, hein, c'est pas que moi, comment l'Église sait dire l'essentiel de sa foi, et le dire dans des mots simples. Moi, je suis toujours très frappé. Enfin, je me demande ce que ça veut dire. Ça veut peut-être dire que la foi y est pas, j'en sais rien. Mais quand je vois la façon dont on parle aux adolescents, aux enfants, on va chercher midi à 14h pour leur expliquer des trucs très compliqués. Mais quand on vous demande c'est quoi être chrétien, alors qu'est-ce que vous allez répondre, c'est quoi être chrétien? Moi, j'ai tendance à dire c'est avoir rencontré Jésus et avoir fondé sa vie dessus. Premièrement. Deuxièmement, c'est Jésus qui s'est fait un homme comme nous pour vivre ce que l'on est, pour que nous on devienne des dieux, et qu'on ne soit pas détruit par la mort, et qu'on vive toujours avec les gens qu'on aime, et qu'on y soit heureux. Voilà, alors je peux vous le dire autrement, en discours d'évêque, mais est-ce qu'on va à l'essentiel des choses, ou est-ce qu'on tourne autour du pot? Et très souvent, même des gens qui pensent, qui parlent très sympa, ils disent pas la foi. Bon, c'est typique, hein, on l'a un peu fait tout à l'heure, mais typique. Beaucoup de chrétiens sont culpabilisés. Ils commencent par dire « Oui, mais l'Église, c'est pas que l'institution. » Ok, c'est vrai, mais c'est un peu comme si vous recevez quelqu'un chez vous à déjeuner, vous dites « Ah, attendez, hein, c'est pas que les toilettes, hein, la maison. » Bien sûr, oui, on s'en doute, enfin, on suppose. Mais bon, mais où est-ce qu'on va ailleurs et à d'autres choses, quoi. Et moi, bien sûr qu'on a besoin d'un langage, mais il y a des langages. Vous ne parlez pas de la même façon aux ados du 93, pardon, que, je sais pas, moi, quand je rencontre les jeunes gens de Juventutem. Juventutem, c'est le groupe des jeunesses traditionnalistes. Bon. En fait, ils parlent la même langue, mais si je me risque à parler la langue du 93, ils ne m'écouteront plus. Bon, après, je pourrais le faire. Quand je vais parler la leur, qu'ils savent que je connais le langage, on pourra parler autrement, parce qu'ils parlent comme ça, de toute façon. Mais... comment on rejoint quelqu'un dans ce qu'il est? C'est Paul qui dit ça. Je lui fais tout à tous pour en gagner quelques-uns. Comment on essaie de rentrer dans le langage de l'autre? Au moins le comprendre si on n'arrive pas à le parler. Et si on ne le fait pas, enfin c'est ce que disent tous les textes du Concile, hein, que la première des choses, c'est l'inculturation. Comment je vais entendre l'autre, l'écouter et pouvoir trouver une parole qu'il entende? Mais en même temps, la mienne sera toujours différente parce que moi, c'est moi et lui, c'est lui. Donc pour qu'il y ait un dialogue, il faut quand même qu'il y ait deux personnes. Il y a un texte complètement illisible, mais quand même remarquable de Jean-Luc Marion, qui s'appelle « L'icône et la distance », dans lequel il joue, alors, mais c'est remarquable, dans lequel il dit bah, « pour qu'il y ait dia, alors il tire un trait, log, il faut qu'il y ait un logos entre, dia, entre deux personnes ». Et donc nécessairement, il y a une part irréductible dans le dialogue. Je dois perdre une fois pour toutes l'idée que je vais fusionner avec les gens que je rencontre. Il y a une part de moi qui est forcément inacceptable pour un certain nombre de gens, et réciproquement. Mais il y a aussi une part qui nous est commune et dans laquelle on peut se retrouver. Et je peux aussi peut-être rencontrer l'autre dans sa différence. Moi, une des chances de ma vie, c'est qu'il y avait un trou dans la haie de la maison qu'on habitait. Quand il y a des trous dans la haie, les enfants, ils passent par le trou. Et d'autre côté, il y avait des enfants du même âge et c'était une famille arménienne. Alors c'était fabuleux parce que leur arrière-grand-père était prêtre. Vous imaginez, des années 50, un petit catholique latin... découvre qu'il y a des prêtres qui sont arrière-grand-père. Un grand beau vieillard avec une barbe et un chignon, et qui savait qu'un mot en français, c'était Mimi. C'est un peu limité pour la conversation, mais bon, mais... Et donc, d'un seul coup, je découvre un monde qui n'était pas le mien. On mangeait pas les mêmes trucs, on chantait pas les mêmes chansons, on est toujours très amis, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Et moi, je suis reconnaissant, d'un seul coup, ils m'ont fait découvrir que, bah, voilà, et qu'on a à s'apprivoiser à l'autre, à sa différence... Et pas devenir lui, moi je ne serai jamais arménien, mais voilà, entrer dans des catégories mentales. Quand après j'ai été curé dans une grande ville qui s'appelle Valence, et où il y a une énorme communauté arménienne, ça m'a beaucoup servi. Par exemple, de savoir que les Arméniens, qui sont aujourd'hui 3e, 4e génération pour certains, sont une admirable communauté qui est parfaitement intégrée en France et qui pourtant est toujours restée parfaitement arménienne. Il y a 3 partis politiques arméniens, il y a des banques arméniennes, ils n'ont pas de chance de rue. Bon. Mais le savoir, ça aide aussi à rencontrer l'autre et à lui parler. Vous savez, comme j'ai été prof, c'est mon vrai métier, et je disais souvent, j'étais conseiller pédagogique, je disais souvent, vous savez, on n'enseigne pas une matière. Enfin, on l'enseigne, bien sûr, mais on ne transmet que soi-même. Mais on ne transmet soi-même qu'à condition de savoir à qui on le transmet. Vous savez, c'est les Anglais qui ont une très jolie phrase, la construction de la phrase, apprendre le... Nous, on apprend le latin à Jean, et ils apprennent Jean à propos du latin, vous savez. Et c'est important, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce dialogue, qui est fait à la fois de choses irréductibles, si vous êtes prof, vous êtes un adulte, prof de collège, et puis l'autre c'est un enfant ou c'est un adolescent, donc il y a déjà des expériences qui ne peuvent pas automatiquement se rencontrer, ils n'entraient pas dans cette différence, ils n'entraient pas. Voilà. Donc je crois que le futur langage de l'Église, moi je rêve de gens, mais on rêvait déjà de ça au 19e siècle, et peut-être même avant, de gens qui soient capables d'être polyglottes et d'entendre les langues et de dire les vérités éternelles avec des mots accessibles à tous. Bien sûr, les documents centraux seront toujours dans une langue, mais ça c'est normal. Hein. Moi, quand mon garagiste m'explique ce qui arrive à ma voiture, j'y comprends rien, ça, c'est clair. Voilà, parce que il a un langage technique. Après, quand il montre, je fais croire que j'ai compris. Voilà. Mais c'est nous tous qui élaborons le langage futur de l'Église. Comment nous parlons de notre foi? Comment nous rendons compte de l'Église? Comment nous acceptons d'en être membres et d'être reconnus comme tels? Moi, il y a un truc qui m'énerve, mais alors à un point, c'est quand des gens qui s'affirment catholiques, pratiquants, disent « l'Église dit que », ou bien « ouais, mais il y a l'Église qui a dit », je dis « non, mais attends, et toi, t'en es ou t'en es pas ?» Alors si t'en es, tu peux dire que, de ton point de vue, tu penses que c'est mal dit, ou... mais tu commences par dire, nous disons. Il y a aussi un nous, dans lequel on est un peu frileux, quoi. Et souvent, alors ça on trouve beaucoup chez des jeunes prêtres, on est devenu prêtre, on est très fiers, mais on veut montrer que, ouais, mais quand même, on n'est pas comme les autres, quoi. Mais je suis désolé, d'abord, si des gens sont obligés de montrer qu'on n'est pas comme les autres, c'est qu'on n'en est pas très sûr, normalement, on est en gros fait comme les autres. Hein. Je vois pas bien l'intérêt de... Mais c'est aussi qu'on est très peu sûr de sa propre identité. Et c'est pas inutile de temps en temps de se repiser dessus. Voilà. Mais je crois que les langages de l'Église, c'est en effet une question. Vous savez, dans les années 70, quand il y a des prêtres qui voulaient rapprocher l'Église du peuple, Jean Chrétien, il a même quitté le ministère pour se marier plusieurs fois, d'ailleurs. Enfin, à l'époque, c'était que la première. Mais alors, il voulait vraiment être proche des gens. Alors, quand il recevait des mariés, alors, faut voir... était dans une paroisse d'un milieu très, très, très modeste, alors il leur posait des questions pour préparer le dossier, il disait « Avez-vous été baptisé ?» Ça, il savait. « Avez-vous été confirmé ?» « Avez-vous été eucharistie ?» Alors là, c'était... Voilà. Ben, il aurait mieux fait de leur dire « Vous avez fait la petite ou la grande ?» Là, ils savent. Ils savent. « J'ai fait mes 2 communions, mon père. » Oh, j'ai tout eu. Voilà. Mais... Bon, alors c'est un peu rigolo, mais je crois qu'il faut aussi accepter parfois de parler ce langage, quitte à le préciser et à le creuser. Bon, alors, il y avait l'inévitable question, que proposer aux personnes homosexuelles qui ne se sentent pas à leur place dans l'Église? Allez, je ne choque pas si je fais une boutade, de changer de chaise, mais... Non, je veux dire, bien sûr, mais qui peut se sentir à sa place dans l'Église? Vous sentez... Tout le monde se sent à sa place dans l'Église, moi pas. Pour de multiples raisons. D'abord parce qu'il y a une part de ce que l'Église me dit qui me heurte moi-même, et pourtant l'Église a raison. Quand l'Église m'appelle à la conversion, il y a plein de trucs, j'aimerais bien ne pas les entendre. Il y a des lectures de l'Évangile qui me sont très difficiles parce qu'elles s'adressent à moi et qu'elles me remettent en cause. Bon, et parfois il faut prêcher, on se dit « Merde, il va falloir faire ce que tu dis. Bon. » Donc, ça c'est un premier point. Et il faut toujours se demander si c'est quand même pas ça qui... Deuxièmement, parce que nécessairement l'Église, ça fait tellement de monde et c'est tellement vaste et c'est tellement compliqué qu'il est bien rare qu'on puisse être d'accord avec tout ce qui s'y dit et tout ce qui s'y fait. Mais tout ce qui s'y dit et tout ce qui s'y fait n'est pas forcément du même niveau ni de la même portée. Bon, moi quand j'ai prononcé le serment, enfin, j'ai On sait que deux fois, c'était pour des synodes d'ailleurs. Parce que normalement, quand il y a évêque, il faut prononcer le serment. Alors, je suis allé trouver mon prédécesseur qui faisait ses valises d'ailleurs. Et je lui ai dit, faut que je prononce le serment devant un évêque catholique. Alors, il m'a dit, donnez le papier, je signe. Voilà. Et donc, j'ai prononcé le serment in petto. Mais j'ai fait deux fois dans un synode. Bon, on m'a appris un truc. Il y a des vérités qui sont de foi. Si je n'y adhère pas, je ne suis pas catholique. Bon, le Christ est ressuscité. Voilà. Il y a trois personnes dans la Trinité. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Des trucs basiques, et ça qui sont essentiels. Parce que toute l'annonce de l'Église repose dessus. En gros, ce qui est dans le credo. Voilà. Donc, dans les évangiles, dans le credo. Ensuite, je m'engage à un respect, à une obéissance respectueuse et déférente à ce qui est donné par le magistère ordinaire de l'Église. C'est pas du même niveau. Il y a une adhésion de foi, il y a une adhésion de respect. Parce que si tout le monde commence à dire oh, le pape, il nous gonfle, bon, c'est aussi un problème. Mais ça veut dire déjà que l'Église me reconnaît un droit d'examen. Et puis, je dois respectueusement recevoir les enseignements ordinaires. Mais on n'est pas dans le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Alors, bon, il y a des affirmations qui, à mon avis, sont des affirmations contingentes. Tiennent aux connaissances de ceux qui les prononcent, à l'état de la situation à un moment donné de l'histoire, etc. Je vous conseille, par exemple, si vous voulez rigoler un jour, c'est rigolo quand on compare, parce que ni l'un ni l'autre sont très rigolos, mais vous allez lire les grandes encycliques, par exemple Mirari Vos de Grégoire XVI, et puis vous allez lire après le décret sur la liberté religieuse de Vatican II. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Quoi. Voilà, parce que Grégoire XVI dit qu'il y a des gens qui ont le délire de parler de cette... il a un mot très dur, je me le calme. De cette sottise absolue qu'est la liberté religieuse. Et puis vous avez un concile œcuménique qui dit la dignité de l'homme oblige à ce qu'il soit libre. Et donc qu'il y a un droit et un devoir à la liberté religieuse. Alors on pourrait dire, bah oui, ils ont changé d'avis. Alors c'est moins sûr quand on regarde finement, mais ce n'est pas sûr qu'ils parlent de la même chose, mais on peut comprendre une situation donnée à un moment et une situation à un autre. Il s'est écoulé quelques années entre les deux. Et donc on est là devant des choses relatives. Bon, il y a un certain nombre d'affirmations, même par exemple en matière de morale, dont on dit, oui, il faut les entendre, il faut aussi les comprendre parfois, les remettre en contexte, mais elles ne sont pas forcément du même niveau que l'affirmation... pour nous les hommes et pour notre salut, il descendait du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie. Je veux dire, on n'est pas dans le même domaine. Donc, il faut toujours se demander pourquoi on ne se sent pas à sa place. Alors, ça peut être parce qu'on est vu de travers, parce que, bon, c'est une autre question. Mais est-ce que ça tient à l'Église? Est-ce que ça tient à une communauté humaine? Est-ce que ça tient... Bon. Et en tous les cas, il ne faut jamais rester devant une question. Il faut savoir aller plus loin et les affronter toutes. Je crois qu'il n'y a rien qui est tabou. Hein. On peut parler de tout, on peut s'exprimer autant qu'on le peut. Si on n'est pas reçu, ben, Jésus dit un truc, hein, vous secouez vos chaussures, vous allez ailleurs. Mais toujours s'interroger sur mon mal-être, d'où est-ce qu'il vient, quoi. Il peut venir de moi, il peut venir des autres. Mais voilà, il faut déjà un peu, je crois, regarder ces choses-là. On peut être effroyablement mal à l'aise dans certaines situations. Moi, quand j'étais ado, par exemple, c'est dans l'action d'ado... Si j'avais une tache sur mon costume, j'étais persuadé que tout le monde regardait ma tache. Et donc j'étais, pour toute la journée, et tous les regards étaient interprétés en fonction de la tache que personne ne voyait, évidemment. Mais moi, je ne le savais pas, parce que moi, je l'avais vu. Bon, une fois devenu adulte, je me dis, si je n'aime pas ma tache, je m'en fous, hein, c'est un problème, ils n'ont qu'à m'acheter du calvaire. Mais comment parfois aussi j'interprète les choses. Vous savez, vous connaissez l'apologue du voleur de hache, un apologue chinois. L'histoire du gars qui coupait son bois, et puis il revient, il n'y a plus de hache. Il se dit, on l'a volé. Alors il cherche qui a pu lui voler sa hache. Et en regardant, il se rend compte que le fils du voisin, il n'est pas clair. Que le fils du voisin l'évite. Qu'il ne regarde plus en face. Il se dit, c'est lui qui a volé ma hache. Alors il parle de hache, et l'autre, visiblement, il se trouve, il va ailleurs, etc. Là, il est sûr que c'est le voleur de hache. Mais comment faire ? Le fils du voisin est costaud, il ne peut pas se battre avec lui. Alors il décide de rentrer son bois et trouve la hache qui est glissée dans le tas de bois. Voilà. Donc, très souvent, notre mal-être, il vient d'abord de nous. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais voilà. Et si vous ne sentez pas à votre place, et que vous pensez que c'est vraiment pour d'autres raisons que vous-même, il faut en parler avec les gens qui vous paraissent ne pas vous mettre à votre place. Ça me paraît... Mais vous savez, je racontais à quelqu'un tout à l'heure une histoire qui m'avait beaucoup marqué. J'étais curé à Valence, et il y avait un vieux monsieur très, très charmant et très sensible. Et un jour, il vient me voir. Là, visiblement, c'est un truc très... Mon père, il faut que je vous parle. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Je lui dis, écoutez, vous semblez vouloir me dire quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, c'est moi, je suis un paysan ardéchois simple, sujet, verbe, complément, ça vous ennuie. Alors, il a fait sujet, verbe, attribut. Il m'a dit, je suis homosexuel. Je l'ai regardé, je lui dis, ah bon ? Et alors, je ne sais pas ce qu'il attendait, moi, que je l'excommunique, je le foudroie, etc. Bon. Et je lui dis, oui, et qu'est-ce que vous attendez de moi ? Alors, il dit, oui, ça ne vous fait pas plus que ça ? Je lui dis, ben non, d'abord, parce que. Doutais un peu, mais ah bon ? Mais il me dit alors, mais vous savez, je fais la lecture, je prépare la crèche. Je lui dis oui, vous voulez arrêter ? Alors il me dit non. Je lui dis alors continuez. Mais bon, mais voilà, je suis persuadé que depuis des jours, il devait se dire ça y est, faut que je lui dise, c'est épouvantable, etc. Bon, alors après, quand il était en confiance, il m'a raconté d'autres choses. Bon, voilà. Alors c'était énorme parce qu'imaginez un très vieux monsieur, très gentil, très classique, très tout ce qu'on voudra, et qui vous dit, vous confondez, j'ai un ami, je l'ai dans la peau. Bon. Et l'ennui, c'est que l'ami, enfin je ne sais pas si c'était réciproque, l'ami était une sorte de routard qui venait sur le vol fric, quoi, et qui lui flanquait des raclées monumentales. Alors je lui dis qu'à mon avis, ça me paraissait plus embêtant. Quoi, que, naturellement, je ne pouvais pas décider à sa place, mais que je lui suggérais de réfléchir, oui, de placer ses amitiés, et que enfin, l'amitié supposait un minimum d'égalité entre les personnes et de gratuité dans la démarche. Bon, il n'a peut-être pas compris tous les mots, hein, mais en tous les cas, il a continué à faire... Je ne sais pas s'il a continué à prendre ses raclées, mais il a continué à faire la lecture, la crèche, etc., jusqu'à sa mort. Nous l'avons enterré très, très pieusement. Et alors, c'est très drôle, parce que quand on l'a enterré, il y avait toutes les dames fleurs qui avaient fait des fleurs avec lui, pendant je ne sais pas combien de temps. Il y en a une qui me dit... C'est un homme extraordinaire. Je crois qu'il était inverti. Je lui dis, vous croyez ? Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est... Et souvent, je me dis, c'est pas plus compliqué que ça, vous savez. Mais lui avait dû en être malade pendant des jours et probablement pas dormir pendant des nuits avant de venir me le dire et de m'en parler, etc. Et peut-être j'aurais dû prêter plus d'attention et mettre un peu plus de pathos dans ma réponse, mais d'une part, je suis pas très pathétique par nature, et d'autre part... Bon, voilà. Mais je reconnais que je n'ai pas toujours la bonne réponse pastorale. Je m'occupais de meunerie de lycée, mais je n'étais pas encore prêt, d'ailleurs. Ils n'auraient pas dû m'ordonner. Et il y avait des jeunes, parce qu'on avait un confrère qui était vraiment un type extraordinaire, un saint, vraiment un grand bonhomme, qui m'a profondément marqué, qui est mort comme il le souhaitait parmi les clodos qu'il servait. Et il avait l'art d'attirer à lui tous les chiens perdus du quartier. Donc il y a une bande de gamins qui n'étaient pas à l'aumônerie, mais qui étaient vraiment des pauvres gosses. Voilà. Alors lui, il était bon, moins, mais enfin, c'est une autre question. Et un jour, j'arrive, je suis là, puis il y en a un petit racheté qui me dit, ah, je suis plus puceau. Je lui ai dit, est-ce que t'es moins con ? Et alors, j'ai évidemment silence de mort, mais écoutez, c'est ça une parole pastorale, il faut ramener les choses. Alors, j'ai un peu regretté ma réponse après, parce que j'ai surtout su que la perte de la qualité en question s'était faite à l'occasion d'un viol collectif. Mais... pas complètement, elle était d'accord pour les trois premiers, mais pas les deux autres. Enfin bon, bref, mais c'était. Mais. Que j'aurais peut-être dû être plus attentif, mais. Bon, voilà. Et je suis persuadé qu'il y a plein de prêtres, plein de gens qui sont prêts à réagir comme moi. Alors, bien mieux élevés, parce que, comme disait ma mère, mais je comprends pas que tu parles aussi mal. Je leur dis, c'est pas moi qui t'ai enseigné ça. Les curés t'ont perverti, me disait-elle, ce qui est peut-être pas faux d'ailleurs. Mais. Voilà, moi je vous invite à simplifier les choses et voilà. Bon, parfois c'est pas simple, parce que parfois il y a de vrais problèmes. Parfois il y a de vraies exclusions, je le sais. J'ai vu des gens réellement exclus et qui vivaient des situations très terribles, hein, on le sait tous. Bah, allez voir ailleurs, quoi. Allez voir ailleurs, moi je crois que c'est ici. Et puis priez pour les gens qui vous accueillent pas ou qui vous mettent en situation difficile. Ça, c'est l'attitude chrétienne. Arriver, hein. Il y a des gens, d'abord il y a des gens qui ne sont pas très bien avec leur propre inconscient, donc voilà, il faut faire avec, mais Enfin, l'église est vaste. Et, alors, sauf si vous habitez vraiment dans une oasis du désert, là, ce sera plus loin pour aller. Mais si vous habitez dans un espace, pas trop, il y aura toujours une communauté. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, enfin, peut-être que je me trompe, hein, on ne connaît pas tout, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des obstacles dans les communautés. Peut-être ici ou là, j'en sais rien. Mais par contre, c'est souvent des obstacles dans le cœur des personnes elles-mêmes. Oui. Et des fois, il faut... Vous savez, moi, je dis, la première des miséricordes, on se la doit à soi-même. Et c'est souvent parce qu'on n'est pas miséricordieux avec soi-même qu'on est persuadé que les autres ne sont pas avec nous. Alors la miséricorde, ce n'est pas tout accepter de soi-même. On doit être exigeant à l'égard de soi-même. Et c'est d'abord s'accepter pécheur, pauvre et fragile. Voilà, c'est comme ça. C'est le psaume 50 dit ça. C'est un très beau psaume 50. Hein, voilà. Dans le péché, ma mère m'a conçu. Hein. Voilà. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais le gars, le psalmiste, il continue pas en disant « Je suis une merde, tu vas me rejeter. » Non, 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 non. Oui, danseront les eaux que tu broyais. Hein, je proclamerai ta gloire dans la grande assemblée. Bon. Mais c'est pas l'auto-culpabilisation, l'auto-flagellation, c'est vraiment la miséricorde. Et alors, il y a un truc qui aide beaucoup pour l'auto-miséricorde, c'est l'humour. Alors, si vous n'en avez pas, je ne peux pas vous en donner. Mais ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on a appris à rire un peu de soi-même, il y a plein de choses qui se relativisent extraordinairement, et pas seulement dans le domaine de l'homosexualité, mais dans beaucoup d'autres domaines. Vous savez, moi je me dis, je vois parfois des crises, alors ça n'a rien à voir avec ça, hein, des crises internes de l'Église, des gens qui se sentent rejetés, etc. On se dit, oh, vous ne croyez pas exagérer non plus, quand même. Bon, oui, oh, je vous assure, je suis allé voir Dame Caté, pardon pour les dames, Dame Caté. Oui, je suis allé voir le curé, il me dit jamais c'est bien. Je dis, bah, moi non plus, j'ai jamais dit à quelqu'un que c'était bien, j'ai été élevé comme ça. Je dis, ouais, c'est pas trop mal. Bon. Mais c'est remarquable quand on dit des choses comme ça. Ah bon, vous croyez? Mais je m'étais senti tellement rejeté. Oh, ça va, hein. Bon, et non, mais c'est agaçant. Enfin, c'est agaçant, je comprends. Je veux dire, il y a une souffrance derrière, je suis un peu dur quand je dis ça, mais aussi de temps en temps, se dire, bon, c'est pas une tragédie, hein, c'est pas. J'ai beaucoup aimé ça parce que, donc, dans mon diocèse, je rencontre des gens extrêmement divers, qui, peut-être parce qu'on est dans une période, surtout les plus jeunes, qui manquent cruellement de père, quand ils ont une famille, une figure paternelle institutionnelle, spontanément se confie à lui. Donc, l'évêque, c'est extraordinaire, c'est super père, quoi. Qui arrive avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire celui qu'il faut tuer, celui qui est détestable, celui qui ne comprend pas, celui, bon. Mais aussi ses papas à qui on peut tout dire, voilà, puis c'est l'homme, le capitaine qui regarde droit devant, qui conduit, etc. Et donc on écoute et on sait plein de choses au bout d'un moment sur des gens qui très spontanément vous parlent d'eux, quoi. Et je me dis, je vois ceux qui vivent en paix, enfin en paix, on n'est jamais en paix avec soi-même, en paix relative avec eux-mêmes, puis les autres. Les autres, ils sont souvent un peu agressifs avec leur entourage, quoi. Voilà. Et c'est un peu difficile, mais si on est comme ça, c'est pas drame, c'est pas dramatique, on n'est pas damné, on n'est pas jetable, mais on peut peut-être faire un travail sur soi-même, avec une aide, évidemment, mais pour essayer à dépasser ça, quoi. Et je me dis souvent, quand même, souvent, c'est... Vous savez, c'est dans Saint Jérôme, ça se brave. Saint Jérôme, il a fait une grosse crise de dépression à une époque, et il était persuadé qu'il fallait qu'il arrête, alors c'était terrible, parce que c'était sa vie, ça, qu'il arrête de s'occuper de la littérature, quoi. Alors il adorait ça, c'était bon, c'est son boulot d'abord. Bon, et vraiment, alors il explique ça, il entend une trompette, enfin une voix, etc. Puis bon, il s'est converti après, hein, il est revenu très largement à ses bouquins vers la fin, mais la trompette qu'il a entendue, c'est lui qui l'a sonnée, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas bien et on s'auto-culpabilise sur des tas de choses. Mais du coup, on a le sentiment que ça vient de Dieu ou des gens qui nous entourent. Voilà. Moi, vous savez, j'ai lu un truc dans l'Évangile. Alors, attention, parce que je corrigerai après, parce que je méfie des interprétations laxistes. Mais il y a une phrase dans l'Évangile qu'on cite jamais, à cause de la fin. Mais c'est dommage. Vous savez, c'est quand Jésus chasse les démons et on lui dit « c'est par Belzéboul que tu chasses les démons ». Et on sent que Jésus est très en colère. Et il dit, tout sera pardonné aux enfants des hommes. Tout, même le blasphème contre le Fils de l'homme. Ça, il le dit. Excusez-moi, mais ça, c'est dans l'Évangile. Un seul péché ne sera pas pardonné. C'est celui contre l'Esprit Saint. Parce qu'ils avaient dit que c'est par le doigt, que c'est par Belzéboul qu'il expulsait les démons. Autrement dit, péché contre l'Esprit, c'est quand vraiment on ne veut pas. On veut pas et on refuse l'œuvre de Dieu dans sa vie, alors qu'on la connaît, qu'on la reconnaît, on ferme la porte parce qu'elle nous dérange. Mais définitivement, mais tout le reste est remis à la miséricorde de Dieu. Alors, je corrige tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, ni qu'il s'agit de s'embarquer dans des situations sans issue, parce qu'elles peuvent être aussi immédiatement destructrices. Il n'y a pas que l'enfer qui détruit. Mais, voilà. Et si déjà on peut se dire ça, qu'on n'est jamais hors de la miséricorde de Dieu, que comme M. Pascal Blaise, auvergnat de son état, disait, ou faisait dire à Jésus, je me suis mis plus bas que tes ordures. Vous savez, c'est dans le mémorial. Hein. Alors, eh bien, Dieu est toujours en dessous de nous, même au plus profond du péché, au plus profond de l'échec, Dieu est encore en dessous. Et il nous tend la main. Et si on est convaincu de ça, mon Dieu, et si après on essaie de se donner les moyens de trouver les mains secourables et fraternelles, et si on sait, quand on est assez fort, trouver les lieux de rupture et de conversion, ben, ma foi, voilà. Et après, on évite de penser qu'on est converti une fois pour toutes. Hein. C'est, bon, voilà, mais on sait tout ça. Mais vraiment, je vous invite à ça, et à ne pas vous laisser enfermer dans le sentiment de mal-être dans l'Église. Il peut être fondé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens, ne serait-ce que parce qu'eux-mêmes ne sont pas clairs, qui peuvent mettre les personnes homosexuelles sur la touche, qui peuvent faire peser un regard extrêmement désagréable, etc. Mais, bon, ben dans ce cas, si bon, c'est trop lourd, trouvez une autre communauté. Mais quand même, quand ça arrive, commencez par vous dire, qu'est-ce qui est complètement vrai là-dedans? Il y a sûrement un peu de tout, mais qu'est-ce qui, en moi-même, mériterait que je respire un coup, je m'expose à ma miséricorde personnelle et à celle de Dieu? Parce que si nous ne sommes pas miséricordieux à l'égard de nous-mêmes, je vous jure qu'on ne sera pas à l'égard des autres. Je me souviens un jour d'un brave homme, c'était un prêtre qui avait eu une vie un peu compliquée, c'était un très vieux prêtre, qui avait une vie un peu compliquée, il avait quitté le ministère, il avait vécu avec une femme, et puis bon, il avait demandé à rentrer dans le ministère des années après, et là il était âgé, il avait été formé avant-guerre, donc il avait une vision très carrée de certaines choses, et il avait un vieux monsieur en train de mourir qui demandait le viatique, et ce monsieur était un divorcé remarié. Et donc ce prêtre ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il me dit, mais est-ce que je peux lui donner ce que je lui donnais, les sacrements? Vous comprenez, il est en situation irrégulière. Alors, en fait, déjà, il avait fait un progrès, parce qu'on lui avait appris qu'il aurait dû demander au monsieur de promettre, s'il en réchappait, à 97 ans, s'il en réchappait, de renvoyer sa compagne ou de vivre désormais dans la plus chaste relation. Je lui ai dit, excusez-moi, mais il est malade depuis combien de temps? Oh, il m'a dit depuis au moins 10 ans. Et je lui ai dit, vous croyez qu'il y a beaucoup de tutu-pampan pendant ce type de maladie? Alors il m'a dit, oh non, bien sûr. Je lui ai dit, bah alors, il satisfait aux exigences de l'Église. Ils vivent dans la charité parfaite, parce que se coltiner un vieux malade, c'est de la charité. Hein. Et puis je lui ai dit, mais enfin, pardonnez-moi mon père, mais vous ne savez pas ce que c'est que la miséricorde. Il m'a dit, vous avez raison, car je l'ai connu moi-même. Voilà. Mais c'est peut-être parce qu'il avait connu qu'il pouvait le faire. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on peut tout accepter. Hein. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ni qu'il ne faut pas poser des exigences. Mais l'amour pose des exigences toujours plus grandes que la loi, d'ailleurs. Parce qu'avec l'amour, on n'est jamais en règle. Si notre chemin, c'est par rapport à la loi, on devient très vite des pharisiens. C'est-à-dire, est-ce que jusque-là, c'est un péché véniel, grave, mortel? Voilà. Ça, on connaît tout ça. Enfin bon, moi, quand j'étais enfant, c'était désopilant. Heureusement qu'on a exprimé ça. Il est le problème du jeûne avant la communion. Voilà. Il fallait être à jeûne depuis 3 heures. Je rappelle qu'il faut toujours être à jeûne depuis 1 heure. Il fallait être à jeûne depuis 3 heures. Bon, très bien. Mais alors qu'est-ce qui rompait le jeûne? Parce que les gens, ils s'en foutaient. Bon. Alors, est-ce que si j'avalais un flocon de neige en allant à la messe, est-ce que je peux communier? Bon. Et alors, on découvrait que si vous mangez du foie gras, ça rompait le jeûne. Et si vous mangez un consommé au foie gras, ça ne rompait pas le jeûne, c'était du liquide. Bon. Alors là, on est carrément... Bon, c'est pareil, les jours d'abstinence, on ne pouvait pas manger de viande. C'est un truc de riche, donc il fallait montrer que solidaire des pauvres, etc. Bon. Donc, vous ne pouviez pas manger un steak frites. Vous pouviez manger un homard thermidor. Ou des sarcelles, parce que le gibier d'eau était assimilé au poisson. Bon. Alors là, on est dans le pharisaïsme, c'est-à-dire... Mais l'amour, il n'est pas comme ça. Quand j'aime quelqu'un, je ne l'aime jamais assez. Et donc, si j'aime le Christ, eh ben, je sais toujours que je devrais approfondir ma relation avec lui et avancer dans la conversion et recommencer chaque jour pour être le plus proche de lui possible, le plus semblable, le moins séparés. Et donc, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors, évidemment, le problème, c'est que souvent, aujourd'hui, on a trouvé une situation intermédiaire. C'est qu'il est question... Alors, soit on refait la loi, vous savez que c'est typique en France. Quand une loi ne marche plus, on la refait. Voilà. Alors, il y a tellement de lois, d'ailleurs, qu'elles deviennent complètement contradictoires. Ah oui, on va pouvoir faire ce qu'un gars avait fait au Moyen-Âge. Vous savez, les juristes connaissent ça, la concordantia positorum, là. Alors, on va pouvoir recommencer, parce qu'il y a plein de trucs qui ne veulent plus. Mais parce que chaque fois qu'il y a un problème, il faut faire une loi, puis quand la loi devient trop dure, il faut en faire une pour l'adoucir ou pour reprendre tous les cas. Bon, alors c'est très... Tous les groupes minoritaires savent ça, ils ont leur loi, ou ils vont l'avoir. Bon. C'est aussi un truc qui dit simplement qu'il n'y a plus de vérité. Bon, alors, l'autre truc, c'est aussi « Oh, ben, mon Dieu, il n'en demande pas tant. » C'est ça, quoi. « Dieu, il est bon, donc allons-y. » Non, non, non. La démarche, c'est si je choisis le Christ et si je dis que je l'aime, comment je vais vivre avec lui ? Ben forcément, pas de la même façon quand je le rencontre que 10 ou 15 ans après. Et bien sûr, ce sera toujours à recommencer. Mais c'est là que ça se trouve. Voilà. Alors vous me direz que ça répond pas complètement à la question, mais un peu quand même, j'espère. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Parce que remarquons, on arrive au bout là. Ou d'affirmation définitive ou... contestation. Merveilleux. Ils étaient dans l'admiration des paroles qui sortaient de sa bouche et tous gardèrent le silence. Bon, mais voilà, ce que je voudrais vous dire, bon, moi on ne m'a pas demandé de parler de ces questions-là, mais je refuse pas. Je voudrais vous dire deux choses. Mais vous en êtes convaincu, sinon vous ne seriez pas là. Mais celui qui est en face de vous, c'est le Christ. C'est avec lui qu'il s'agit d'être en paix et en confiance. Ensuite, le reste vient, mais c'est d'abord ça. Et il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que c'est ce chemin-là d'abord. Je racontais tout à l'heure, là-bas, en aparté, tant pis pour les deux qui l'ont déjà entendu, mais... un truc qui m'a beaucoup marqué, un homme qui a changé la morale dans l'Église, c'est saint Alphonse de Ligorie. Et donc on est au 18e. Hein. Il est devenu assez vieux, donc ça coupe presque tout le 18e. Et il envoie ses premiers rédemptoristes hein, en Sicile. Les pauvres rédemptoristes, la Sicile est un immense lupanard. Personne ne se marie, tout le monde couche avec n'importe tout le monde, même avec la basse-cour. Enfin, il n'y a que les curés qui se marient. Parce qu'ils ont un peu de religion, alors ils vont au village à côté se marier devant leurs confrères. Les rédemptoristes, ils déboulent, ils sont médusés. Alors ils écrivent à saint Alphonse. Ils lui disent, Monseigneur, alors, il a les pleins pouvoirs du pape. Monseigneur, il faut excommunier tout le monde. Voilà, pour que les gens comprennent bien que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et Alphonse leur répond, non, ne leur dites même pas que ce qu'ils font est mal. Annoncez-leur vraiment Jésus-Christ. Quand ils le connaîtront et quand ils l'aimeront, ils changeront leur vie. Là, je crois que c'est le principe que nous devons tous avoir pour nous-mêmes. Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même, parce qu'on est parfois un peu tenté quand même d'être très gentil avec soi-même, mais il faut quand même que pour nous-mêmes, ce soit ce principe. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une conception de Jésus-Christ, il s'agit de l'aimer. Et donc, voilà, ça engage une vie et petit à petit, ça lui donne un sens, je crois. En même temps, je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce que nous sommes faits de l'argile humaine. C'est M. Peggy qui disait « Vous qui les avez faits du limon de la terre, ne vous étonnez pas qu'ils soient trouvés terreux. Et vous qui les avez jetés au ver de terre, ne vous étonnez pas qu'ils soient trouvés véreux. » C'est dans Ève. Mais voilà, Dieu le sait. Quoi. Il y a une citation d'un livre spirituel que je ne saurais trop vous conseiller. C'est « La vie admirable de Thérèse d'Avila » par Claire Bretéché. Et dans un des passages, on voit Saint-Pierre d'Alcantara debout en train de se couvrir d'excréments avec tous les avec les mouches et qui dit à Thérèse d'Avila, qui lui dit « Je dis à Dieu que je suis une merde ». Alors on se bouche un nez, elle dit « Je crois qu'il y a longtemps qu'il s'en est rendu compte ». Et elle passe. Et non, mais il y a des livres qu'on devrait lire hein, plus souvent. J'étais très impressionné par ça. J'ai bien rigolé. Et en fait, c'est très respectueux. C'est très respectueux, Thérèse d'Avila. Alors, c'est un peu étonnant, évidemment. Bon, ne l'offrez quand même pas aux gens trop coincés autour de vous, parce qu'ils pourraient mal comprendre. Surtout si vous dites que c'est un évêque qui vous a conseillé. Mais, et puis on ne trouve plus, de toute façon. Mais voilà. Non, on n'est pas dans la merde. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où on se met hors de nous-mêmes, plus bas que nous-mêmes, qu'on se nie nous-mêmes, parce que c'est ça le péché, hein, d'une certaine façon, et qu'on se met dans des situations fausses ou mensongères, quoi. Et notamment quand elles prennent la coloration de l'amour. Je me souviens un jour avoir dit à des futurs prêtres qui auront inévitablement un jour ou l'autre à se poser la question. Ils sont engagés au célibat, ils vont le vivre, mais je veux dire, la vie, elle est faite de tas de gens qui passent. En disant, ben voilà, moi je propose, quand ça vous travaille un peu, de vous poser trois questions. La première, c'est quand je dis que je suis amoureux de quelqu'un, qu'est-ce que je dis vraiment? Qu'est-ce que je mets derrière ça? Est-ce que vraiment ça veut dire que j'ai rencontré quelqu'un qui a tellement traversé ma vie qu'il la prend tout entière et que je vais la lui donner? Ou est-ce que ça veut dire que je suis seul, que j'ai besoin d'affection, que quand j'étais petit je prenais un nounours et que maintenant je prends une copine ou un copain? Ou d'autres choses encore. Vous savez, deux misères n'ont jamais fait un bonheur, par exemple. Bon. Et parfois, des couples se forment sur deux misères et pas du tout sur un projet de vie. Deuxième question, c'est est-ce aimer quelqu'un que l'entraîner dans mon propre péché? Autrement dit, quand je sais clairement que telle ou telle conduite est destructrice ou telle chose que je mets en route, est-ce que j'aime quelqu'un si je l'entraîne? Et troisièmement, alors ça c'est pour les prêtres, mais ça peut valoir pour les laïcs, est-ce que je peux tout le temps être en train de parler du mystère pascal et le refuser quand il se présente à moi? Ça, c'est une question. On est tout le temps en train de parler de la croix, on met des crucifix partout. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Ça veut dire du choix, parfois crucifiant, qu'on doit faire contre soi-même. Et alors, j'aimerais vous dire un autre truc. Moi, l'expérience de ma vie, c'est que Dieu nous prend très au sérieux. Tout ce qui lui est remis nous est généralement rendu. Et pas comme on le croyait. Je me souviens très bien, quand j'étais au séminaire, j'étais un pieux séminariste, enfin, ils m'ont fait faire 4 ans parce qu'ils m'avaient assez vu. Enfin bon, mais j'étais un peu encombrant. Mais l'année où on demande le diacre, enfin on reçoit, on est appelé au diaconat, on doit faire une lettre de disponibilité. Que j'ai faite vraiment, j'étais bien préparé, tout ça, et donc qui inclut l'idée que je sais clairement que je m'engage au célibat continent pour le reste de ma vie. Bien sûr, pas comme mutilation, mais comme l'adhésion au Christ et comme un projet que la charité du Christ traverse ma propre vie, mes propres amours. J'ai remis ma lettre, portée par les anges, et je suis tombé amoureux la semaine suivante. Bon, à partir de là, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Faire un codicille et dire finalement j'ai réfléchi, je ne fais plus la lettre. Ou bien dire, bon, je m'accommoderai. Non. Puis je dis, Seigneur, écoute, si tu m'appelles, ben, tu vas m'aider à gérer ça, quoi. Et moi, ben voilà, j'ai pris un engagement, je souhaite le tenir. Donc je te demande de m'aider si tu penses que c'est inutile à détruire cette relation qui va commencer bientôt. Et le plus extraordinaire, bon, de fait, il n'y a pas de suite, mais le plus extraordinaire, c'est que, en fait, est née, mais longtemps après, une extraordinaire amitié qui a largement aidé à construire l'Église là où j'étais. Et alors, sans ambiguïté et sans difficulté. Mais nous ne faisons pas confiance à Dieu, c'est ça le manque de foi. Nous ne croyons pas que ce que nous remettons, Dieu est capable d'en faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à, de temps en temps, prendre des décisions. Et je me rappelle d'un garçon que je préparais au mariage et qui me disait, tu sais, tu ne te rends pas compte. En fait, je me rendais très bien compte, mais lui, il ne savait pas. Tu sais, là, l'engagement que je vais prendre, c'est comme quand tu es petit. Puis t'as un jouet à la main, il y a un grand qui vient, il dit « Ferme les yeux, lâche ton jouet, je vais te mettre un truc mieux dans la main. » Et ben t'as du mal à fermer les yeux et à lâcher le jouet. Bien sûr. Bien sûr. Et l'acte de foi, il est là-dedans. Ce que j'ai remis à un Dieu que j'aime et qui m'aime ne peut pas être perdu et ne peut pas être détruit. C'est pas donc de l'ordre de la renonciation douloureuse, mais de la confiance dans celui qui m'aime et qui peut m'aider à faire avancer les choses. Et je crois que c'est vraiment ça. Voilà. De même, quand on parle de la chasteté, je trouve que, d'abord, il y a une confusion, on confond toujours chasteté et continence. Or, le mariage doit être chaste. Et pas continent, au mieux pas, sinon. Mais il doit être chaste. La chasteté, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce refus absolu d'être propriétaire de quelqu'un. L'autre ne m'appartient pas. Et quand je sens qu'à un moment donné, peut-être simplement, je suis en gros besoin affectif, je vais le capter, j'ai le devoir de prendre mes distances. Pas parce que c'est pas bien, mais parce que je ne le respecte pas. Et que qu'en tous les cas, il faut que, même si j'engage une relation, j'arrive à un moment à ce que la relation soit vraie, équitable et égale. Les anciens disaient, l'amitié prend les égaux ou les faits, je dis en latin. Mais il faut qu'il y ait cette égalité, cette liberté. Je me souviens très bien de cette fille qui m'expliquait, bon, elle avait un fiancé très officiel, ce genre très convenable, très catholique, abonné à la famille chrétienne, tout. Et son admirable fiancé lui disait, tu ne couches pas avec moi, je te largue. Bon. Et là, elle me disait, je couche parce que sinon, je dis, non. Non, non, parce que si tu acceptes de coucher là, ça veut dire qu'il te prend vraiment pour une pute. Donc, non, je suis désolé, si tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Et tu lui expliques, non, voilà, c'est tout. Tu n'es pas à disposition. Enfin, quel est le type de relation qui se met? J'ai dit, un jour à une brave fille, on était d'un pèlerinage de jeunes, et alors il y avait une fille un peu qui était tombée sous le charme d'un brave jeune homme, qui d'ailleurs par la suite a révélé une autre nature, mais enfin à l'époque on en était là, et un brave jeune homme qui lui avait dit, on sort ensemble, mais comme le pèlerinage est religieux, on couche tout de suite, parce que moi je te largue après, quoi. Et la fille se posait une grave question qu'elle avait confiée à un beau séminariste qui était là, et le beau séminariste ne savait pas ce qu'il fallait répondre, quoi. Elle est venue me voir, m'a exposé le cas de conscience, je lui ai dit, dis-lui de venir. Alors elle est venue, je lui ai dit, alors Stéphane veut coucher avec toi, et puis il te largue après. Elle était toute rouge, elle me dit, oui. Je lui ai dit, faut le faire. Elle me regarde et elle me dit, je dis, ouais, mais tu fais payer. Alors elle me dit, je lui ai dit, non, parce que si tu fais ça, t'enlèves le travail et d'honnêtes femmes qui en vivent. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, c'est un boulot au noir, on peut pas faire ça. Alors la fille, alors elle part. Alors le séminariste me dit, j'ai jamais osé lui dire ça. J'aurais pu dire que le pape était pas d'accord, mais ça l'aurait pas aimé beaucoup. Et alors, il faut quand même mettre quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire si vous acceptez ce type de marché? Enfin, pour qui vous prenez en acceptant ça? Moi, je comprends tout ce qui est derrière. Attends, même si elle a eu, peut-être qu'elle l'a fait, même si elle est couchée, je veux dire, je peux comprendre tout ce qu'il y a derrière de qui se met en route quand on est jeune, etc. Mais on peut au moins rationnellement montrer quelque chose qui ne va pas, qu'on accepte d'être l'objet de quelqu'un et que ce n'est pas acceptable, qu'on ne peut pas être l'objet de quelqu'un et que l'autre ne peut pas être mon objet. Et ça peut être douloureux. Mais voilà, c'est un chemin-là. Après, je vous dis bien, comme toujours, on dit l'idéal des choses, et puis après, il faut parfois une vie entière pour s'ajuster. Et parfois une vie entière pour découvrir, je ne suis même pas sûr que le gars ait été très converti, mais un jour, j'ai un vieux monsieur qui vient me voir. Je ne comprenais pas bien pourquoi, Et puis il me dit, je m'appelle monsieur machin, etc. C'est vous qui avez dit la messe pour monsieur Truc l'autre jour. Alors oui, effectivement. Il me dit, c'est moi qui avais demandé la messe. Et il me dit, il faut que je vous avoue quelque chose, avec monsieur machin, on vivait, c'était pas, je vivais ensemble. Bon. Puis il me dit, vous savez, je l'accompagne jusqu'au bout, alors c'est un type qui a 70, 72 ans, et son copain était mort à 95, 96 ans, et il me dit, vous savez, ça a été très dur parce qu'il a fait un Alzheimer. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Bon, ce qui n'est pas rien. Et il me dit, vous avez trouvé horrible notre vie. Je dis, moi, je ne la trouve pas horrible. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir accompagné jusqu'au bout dans son Alzheimer. Et vous avez surtout montré que ce n'était pas simplement un attachement de passade, mais que cet attachement s'enracine dans une charité authentique. Parce que, comment voulez-vous, bon. Et à ce moment-là, le gars se met à pleurer. Il me dit, vous savez, en fait, il m'a sorti de la prostitution. Bon. Alors, évidemment, tout mon vieux fond de théologie morale ressortait, on a vu un progrès, etc. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui était important, c'était qu'au bout du compte, un homme avait dépassé tout ce qui avait pu motiver. Parce que, après, qu'est-ce qu'il peut faire rester avec un gars qui ne vous reconnaît plus, qui ne sait plus comment vous appeler, le torcher tous les jours, etc. Il était entré dans une vérité de l'amour qui, à mon avis, donnait un sens à toute leur histoire. Ça ne justifiait pas que l'autre soit allé le draguer, mais je veux dire, mais ça donnait un aboutissement. Bon, alors, après, il y a un côté rigolo, c'est qu'il n'était pas venu pour ça. Enfin, bon, ce qui me dit, oui, est-ce que vous comprenez, quand je vous ai vu, et vous ne pourriez pas venir me visiter. Je lui ai dit, mais si, nous avons un prêtre qui visite les personnes isolées. Juste pour Crégisserie, je lui ai dit, c'est Père Huss, donc il viendra vous voir régulièrement. Regardez, c'est un gars de son âge. Et voilà, moi j'en avais 40 à l'époque. C'est un gars de son âge, très bien, je lui ai dit, allez, revisiter. Mais bon, laissons tomber ça, mais le côté un peu ridicule quand même. Mais ces choses-là. Et c'est aussi dans le poids de ce que devient même une aventure peut-être un peu compliquée, ce qu'elle peut devenir, c'est le poids qu'elle porte. Moi, un des livres qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin, c'est un livre de Graham Greene, La puissance et la gloire. Bon, les vieux de mon âge l'ont lu, les jeunes ne savent même pas que ça existe, mais l'histoire extraordinaire, c'est l'histoire d'un prêtre alcoolique, concubinaire, qui est un des derniers prêtres restés au Mexique. Il fait ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas bien, parce que, par exemple, la vente d'alcool est interdite, il y a la prohibition, et donc, il faut qu'il achète pour dire la messe, et quand il achète, il boit la bouteille avant d'avoir dit la messe. Donc, c'est une catastrophe, ce type. Puis, il réussit à se réfugier aux États-Unis. Quand il est réfugié, un gars dont on sait que c'est un indicateur de police vient le chercher parce qu'il y a un bandit que la police poursuit, qui est en train de mourir et qui voudrait se confesser. Ce prêtre hésite, il ne veut pas, il ne sait pas, puis il y va, quoi. Il y va, et en fait, de conclusion, le mourant lui dit « Cassez-vous, mon père, les flics sont là. » Et donc il est arrêté et il est fusillé. Et la veille de sa mort, il a tellement peur que le lieutenant qui représente l'avenir marxiste du pays, et qu'il méprise profondément, mais un acte d'humanité, il lui trouve du vin et le bon père est fusillé, raide mort. Alors la légende dit qu'il est mort en criant vive le Christ roi, parce qu'on raconte des trucs, mais en fait il est bourré. Et l'auteur dit, ben voilà, et il intitule son livre « La puissance et la gloire » parce qu'il dit à travers cet homme, perdu, pécheur, humble, mais qui jusqu'au bout de sa fidélité, néanmoins, puisqu'il en meurt, eh bien c'est la puissance et la gloire du Père qui sont manifestées. Et c'est pas grave d'être pécheur. Ce qui est grave, c'est de désespérer de soi-même et de désespérer de la miséricorde. Mais après, alors bon, je ne conseille pas d'être pécheur, hein, Luther disait « pêche fortement, aime plus fortement encore ». Bon, vous pouvez changer le premier adverbe quand même. Mais parce que pécher, c'est aussi renoncer au Christ. Enfin, comment peut-on le faire légèrement? Enfin, comment peut-on se séparer de lui légèrement? Mais quoi qu'il advienne, garder cette confiance-là. Mais c'est le message de l'Église. Je ne sais pas si on peut être mal à l'aise, mais c'est ce qu'elle dit, y compris dans les textes. Alors parfois, évidemment, c'est comme les mamans. Les mamans, elles aiment bien leurs enfants, mais de temps en temps, il faut quand même les protéger d'eux-mêmes. Alors, oui, si je te reprends encore à mettre les doigts dans la prise, tu verras, etc. Bon. Évidemment, le gamin, il retient surtout que la mère, elle n'y comprend rien, et qu'on ne peut jamais faire des trucs intéressants, on ne peut pas jouer quand on veut, etc. Bon. Mais peut-être que derrière ça, il y a aussi un amour profond, quoi. Parce que ça fait 2000 ans, quand même, qu'on existe, et on a quand même eu beaucoup de dégâts, quoi. Tantôt, on aimerait bien que ces dégâts, ils n'aillent pas trop loin et qu'il n'y ait pas trop de gens détruits. Alors, on n'est pas toujours très adroit quand on le dit, c'est vrai. Parfois, un peu comme les gens qui n'ont plus tellement d'arguments, on joue un peu sur la peur, des choses comme ça, et ce n'est pas bien, il ne faudrait pas le faire. Mais c'est souvent vraiment dans l'espoir d'empêcher des catastrophes. Alors, on s'est dit, je ne suis pas d'accord qu'on le fasse, mais peut-être que ça m'est arrivé de le faire, parce que vous savez, quand vous êtes à court d'arguments, qu'on voudra à tout prix quand même. Alors en même temps, moi je ne le fais pas trop, parce que dans les psaumes, il est écrit « Nul, même s'il donne sa vie, ne peut racheter la vie de son frère. » On ne peut jamais prendre une décision à la place d'un autre. Vous pouvez tout dire, puis il fera ce qu'il voudra. Voilà. Eh bien écoutez, l'heure est arrivée. Hein. Oui. Donc merci de votre sainte patience.